deuxième temps de notre semaine consacrée dans la nouvelle fabrique de l'histoire à la présence de l'Antiquité dans notre société. Pourquoi et comment nous parle le monde antique et en particulier le monde grec? Et que nous dit-il encore? C'est ce que nous expliquait hier Jacqueline de Romilly, biographe de Thucydide et académicienne à l'Académie française. Demain, nous écouterons Malraux sur l'Acropole, rendant hommage à la Grèce et aux Grecs en 1959 à l'occasion de l'inauguration du son et lumière de l'Acropole, justement à Athènes. Et jeudi, un débat historiographique rassemblera des historiens du monde grec autour du difficile exercice de la biographie pour ces périodes très reculées. Aujourd'hui, un documentaire d'une heure dans la nouvelle fabrique de l'histoire, Vivre et revivre l'Antiquité, qui revient sur cette alliance étrange et féconde qui unit depuis quelques décennies chercheurs en histoire ou en archéologie et artisans afin de tenter de reconstituer le mode de vie quotidien des Grecs ou des Romains. 10h, 11h dans la nouvelle fabrique de l'histoire, Vivre et revivre l'Antiquité, un documentaire signé Perrine Kerbrand et Véronique Lamandoureau.
Nous avons tout l'entourage des saveurs. Nous connaissons les marmites, nous connaissons les descriptions de festins, nous connaissons un certain nombre de choses autour.
Un deuxième vin.
Mais la saveur.
Ça s'appelle le mulsum.
La saveur, là, on a envie d'explorer.
Mulsum veut dire vin mielé en latin.
Lâchez vos armes.
C'est en lui-même caractéristique du vin. Le mulsum est réservé au gustatio, à l'apéritif.
Je suis au
c'est un vin mielé, donc. Les textes en parlent beaucoup. Nous, on est parti d'un travail qui est sur l'idée d'Apicius. Apicius, dans ses premiers versets, ses premiers chapitres, là, si je veux dire, c'est pas les évangiles, mais les quatre premiers versets, explique que quand on part en voyage, et bien sûr, je traduis avec mes mots, quand on part en voyage, il est agréable de partir avec une petite trousse de secours dans lequel on a du miel, des plantes, et ça permet donc dans les auberges plus ou moins fameuses et réputées du parcours de pouvoir agrémenter ses vins comme on les aime. Donc on part avec son nécessaire de voyage et on agrémente ses vins.
Je suis archéologue, j'ai étudié particulièrement les amphores et les épaves. Et
André Tchernia.
J'ai beaucoup travaillé sur le commerce du vin. Mais en même temps que je regardais ces objets qu'on trouve par milliers, je regardais aussi tous les textes qui ont parlé du vin et qui ont dit à tel endroit, ou dont on peut déduire qu'à tel endroit il y a eu production de vin, arrivée de vin, échange de vin. Et en lisant ces textes, je me suis aperçu qu'il y avait des textes magnifiques qui parlaient du vin en tant que tel, du goût du vin, de sa qualité, de la façon de le boire, etc.
Alors les premiers archéologues ont fouillé une partie de la parse rustica de la villa.
Hervé Durand.
Et ont très vite compris qu'on était sur une villa romaine, bien sûr, mais qui était dédiée à la viticulture. Donc, bien sûr, ils m'ont fait partager ce parcours et ces découvertes. Et donc là, sont nées des questions professionnelles, j'allais dire, mais qui m'intéressaient presque sur le plan sociologique ou du quotidien. Comment, il y a 2000 ans, mon prédécesseur, qui vivait au même endroit, puisque la villa est à quelques mètres de la maison actuelle, au milieu de mes propres vignes, comment vivait ce vigneron, comment il cultivait la vigne, et bien sûr comment il produisait du vin, et quel goût ce vin pouvait-il bien avoir.
Alors moi je suis professeur de Jiu-Jitsu, professeur d'arts martiaux.
Brice Lopez.
J'ai une formation universitaire de psychologie, sociologie, mais je me suis toujours intéressé au sport, j'ai fait beaucoup de sport. Donc je suis arrivé à l'archéologie expérimentale par le sport, directement par une rencontre. Je ne connaissais rien à l'histoire, rien à l'archéologie, rien à ce patrimoine méditerranéen, bien que montpelliérain. Et puis, petit à petit, comme ça, je me suis passionné pour ces sports de combat méditerranéens antiques. Et donc avec des gens qui travaillaient avec moi sur Genève, on a décidé de passer le cap et de se dire on va se professionnaliser dans le métier d'archéologie expérimentale. Et donc à partir de là, on propose aux gens de se faire leur propre expérience des civilisations anciennes à partir des données littéraires archéologiques et de l'archéologie expérimentale.
Alors au tout début, j'ai d'abord fait de la musique au piano. Et puis après, j'ai entrepris les études secondaires, supérieures, de lettres classiques.
Annie Bélis.
Et très vite, j'ai su qu'il y avait des partitions grecques, qu'il y avait des traités théoriciens. Et je voulais absolument réunir les deux compétences. Et très rapidement, je me suis dit qu'il était très bien d'avoir des partitions, de pouvoir les transcrire au prix d'un effort assez considérable, mais de les porter sur nos portées modernes à 5 lignes, c'était très bien. Mais que les faire entendre, parce que tout le monde ne lit pas la musique.
Quel goût avaient les vins que buvaient les Romains? Comment sonnaient leurs instruments de musique? Quelle saveur avait leur cuisine? Comment les acteurs et chanteurs de la Grèce antique disaient leurs textes, les chantaient ou les mettaient en scène? Quels étaient les gestes des sportifs qui participaient aux Jeux Olympiques ou des gladiateurs qui combattaient dans l'arène? Les chercheurs tentent parfois d'avoir accès aux sensations, aux gestes ou au savoir-faire de l'Antiquité. Ils veulent imaginer une vie disparue dans ce qu'elle a de plus quotidien et de plus difficile à transmettre. Mais si cela semble parfois difficile, l'historien et l'archéologue ont parfois le rêve un peu fou de faire revivre l'objet de leur recherche, de sentir et toucher du doigt la vie de ceux qu'ils connaissent si bien à force de côtoyer les sources. Pour donner corps à ce rêve, sans trahir l'histoire, ils ont recours à l'archéologie expérimentale et s'associent souvent avec des artisans ou des spécialistes d'autres disciplines. Et alors ils se mettent à forger des glaives, tailler des pierres, reconstruire des navires et les faire naviguer, rebâtir des maisons, faire du vin, façonner des instruments de musique et les faire sonner, et cuisiner des épices ou des aliments oubliés. Ils mettent la main à la pâte et collaborent avec des forgerons, des viticulteurs, des luthiers, des constructeurs de bateaux, mais aussi des ethnologues, des papyrologues ou des chimistes. Il peut s'agir aussi de faire réentendre les tragédies grecques et de faire revivre le théâtre antique, ses usages, son esprit et ses traditions, comme l'a fait Evelyne Hertel, professeure de lettres classiques et historienne du théâtre, avec le groupe de théâtre antique de la Sorbonne.
Je faisais des études de lettres classiques. Moi, j'étais quelqu'un qui avait voulu faire du théâtre, qui avait une espèce de vocation théâtrale de comédienne un peu frustrée. J'ai profité d'un moment où le groupe de théâtre antique recrutait assez largement des filles. Ce qui était une chose tout à fait, c'est le moment où le groupe a pris vraiment un tournant. C'était une chose tout à fait nouvelle, puisque jusqu'alors, pratiquement le groupe était constitué uniquement de garçons. Sur le modèle de la représentation antique où seuls les hommes jouaient. Et évidemment, pour moi, ça a été une aventure tout à fait extraordinaire. Puisque le groupe fonctionnait en partie comme un groupe quasiment professionnel, ce qui était extraordinaire, puisque à 18-19 ans, j'ai pu jouer au Théâtre Reggio di Parma, qui est un magnifique théâtre à l'italienne, donc c'est une aventure somptueuse quand on a cet âge-là.
Une autre voix s'éleva, celle du père de la tragédie antique avec cette scène des Perses d'Eschyle, par le groupe du théâtre antique de la Sorbonne, et où, devant le tombeau de Darius à Suse, le coryphée vient traduire l'inquiétude des Perses dans l'attente des nouvelles de Xerxès parti guerroyer sur la terre des Grecs.
10 mars 1954.
Le destin que de tout temps pour les Perses ont réglé tous les dieux perses dans la guerre. Murs des portes qui s'écroulent, cavaliers qui s'enfouchent. Mais voici qu'ils ont appris sur les larges routes blanches d'écume, sous le bouquement, la grande plaine de la mer et la brise des barques frères.
Quand j'ai découvert l'existence de ce groupe, pour moi, c'était exactement, disons, au croisement des deux passions que je pouvais avoir, c'est-à-dire la passion pour le théâtre et la passion pour la littérature grecque. Donc ça s'est présenté, c'était vraiment comme le lieu même où j'avais ma place. Et je dirais que ça a été très très important, cette expérience, pour la suite, parce que Bon, d'une part, j'ai poursuivi mes études en lettres classiques. Et puis, au niveau de la recherche, ça a déterminé vraiment toute une orientation dans ma recherche, puisque justement, j'ai inscrit un sujet de thèse sur les représentations du théâtre antique au XXe siècle.
Actissa Eliou, to kallis ton eptapuloi panen, te baiton proteron paos epantes pota cruceas.
J'ai étudié la langue grecque, la métrique, la reconstitution. J'ai rencontré à l'école normale un Américain, Stephen Dates, qui pratiquait la diction orale restituée du grec ancien et du latin.
Philippe Brunet, fondateur de la troupe de théâtre antique Démodocos.
Et puis j'ai rencontré un metteur en scène américain qui voulait faire du théâtre sur ces bases-là. Donc on a créé Démodocos en 95. Le but, c'était de créer une espèce de, on peut dire, de laboratoire expérimental qui puisse dire, donc d'abord valoriser la parole antique. Et puis, à partir du moment où on commence à dire, on est déjà en train de bouger. Donc la parole fait naître le théâtre, on peut dire d'une certaine manière. Et petit à petit, ce qu'on vise, c'est une espèce de tradition recréée. Alors, il faudrait pas qu'on pense qu'on fait pas un théâtre archéologique. Notamment, le fait que, pour les Grecs, souvent, le costume était proche du leur, prouve que les personnages qui étaient devant eux avaient moins de distance que des personnages qu'on mettrait aujourd'hui en peplos ou en toge. Donc, il y a aucune obligation à être absolument strict sur le canon visuel, disons, concernant les costumes ou les décors. Et ce qui compte, ce n'est pas d'arriver à une vérité ponctuelle qui aurait existé à tel moment, mais de mettre en jeu tous les facteurs qui opèrent dans la langue grecque. Et ça, on le sait, il y a la quantité, il y a le rythme, il y a l'intonation, il y a évidemment la phonétique, les jeux sonores, il y a toute la stylistique, et puis toute l'interprétation globale qui font le jeu de la parole, de l'adresse à un personnage. Donc c'est un ensemble de choses. Et en soi, c'est un travail artistique qui se base sur une expérimentation de données reconstituées.
Le groupe de théâtre antique est né à la Sorbonne en 1935. Il voulait retrouver l'esprit et la langue des textes grecs et les remettre en scène. Il a été fondé par Roland Barthes et Jacques Veil, tous les deux alors étudiants en lettres classiques.
Ces deux étudiants ont pensé qu'il fallait monter la tragédie grecque en redonnant au chœur le rôle principal, le rôle de protagoniste qu'ils semblaient avoir dans l'Antiquité. D'autant qu'ils ont choisi de monter la pièce qui était à leur programme cette année-là, au programme de licence cette année-là, c'était les Perses. Alors, ils ont donné ces Perses dans la cour de la Sorbonne le 3 mai, je crois, 1936, et ça a été immédiatement un immense succès.
Et Edwin Mertel, quel était leur but? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce désir d'authenticité par rapport au théâtre grec?
Je crois que ça venait d'une passion pour le théâtre grec, une passion et aussi d'une indignation devant la manière dont la tragédie grecque était représentée ailleurs, puisque, notamment à la Comédie française, puisque les principes esthétiques de base étaient vraiment de prendre le contre-pied de ce qui se faisait à la Comédie française, c'est-à-dire pas de pseudo-décor à l'antique avec des colonnes, des faux temples, etc. Pas de drapé de péplos, de péplum comme on veut, mais des costumes beaucoup plus archaïsants, en faisant une recherche d'ailleurs sur le costume, et puis aussi la décision de faire porter des masques.
Et donc le but de ce groupe de théâtre antique qui était donc d'être le plus proche possible de la vérité, est-ce que les étudiants travaillaient avec des étudiants d'autres disciplines, des historiens, des archéologues, pour avancer plus précisément dans leur recherche de la fidélité?
C'est-à-dire qu'il faut pas se méprendre sur l'idée de fidélité. Les gens du groupe de théâtre antique ont toujours prôné, disons, une fidélité, mais à l'intérieur du texte, pas une fidélité extérieure. L'idée était qu'on ne peut pas reconstituer la représentation de la tragédie grecque parce qu'on ne la connaît pas suffisamment. Donc, en fait, il faut la réinventer. Et en respectant notamment la structure lyrique du texte, c'est-à-dire la présence continuelle du chœur sur la scène, la non-interruption, parce que les autres adaptations étaient très souvent construites selon le modèle classique français, c'est-à-dire en acte et en scène, avec des tombées de rideaux entre les actes. Donc c'était cette structure interne, si vous voulez, qui devait motiver la construction de la représentation. Et aussi avec l'idée que, le fait que toutes les parties chantées devaient être chantées, c'est-à-dire non seulement les parties chorales à l'unisson, sur une ligne mélodique relativement simple qui suivait la scansion, la métrique du vers, mais aussi les parties chantées par les protagonistes. Parce qu'il y a presque, il y a toujours dans une tragédie grecque un moment où il y a au moins un protagoniste qui, devant l'ampleur de son émotion, se met à chanter, la parole étant insuffisante à exprimer justement l'intensité du sentiment.
Le 19 septembre 2005, à l'Auditorium du Louvre, en public, Annibellis expliquait et faisait interpréter une partition grecque trouvée sur un papyrus égyptien dans les réserves du musée. Elle a créé l'ensemble Kérylos qui fait entendre les partitions antiques sur des instruments reconstitués.
Annibellis, quand vous dites que vous travaillez sur la prononciation, sur la manière dont le texte était chanté, que vous parlez du vibrato de l'époque, comment vous avez accès à toutes ces choses?
La notation grecque est si précise en ce qui concerne la hauteur mélodique, on est au tiers de ton près. En ce qui concerne la notation rythmique, on voit là, pour le papyrus du Louvre, que tout ça est sûr. Par exemple, on nous raconte, plusieurs textes nous racontent comment les chanteurs professionnels s'exerçaient, de quelle manière, si vous voulez, ils chauffaient leur voix chaque jour, quelles étaient leur hygiène de vie, quelle était leur hygiène même sexuelle, par exemple, pour préserver leur voix, en accroître les capacités, alors non seulement en tessiture, c'est-à-dire en ampleur, mais aussi en puissance. Quant à la prononciation, ça c'est le travail de tout helléniste qui s'occupe de la langue grecque. On sait exactement à quelle époque, comment prononçait la langue grecque. C'est très facile parce que les gens les moins lettrés écrivent phonétiquement. Donc il suffit de faire prononcer phonétiquement. Si j'ose dire, il suffit. Voilà. Mais il y a parallèlement, évidemment, tout le travail de fond, enfin, qui est d'érudition d'ailleurs, sur la langue grecque, pour établir le texte, pour lire un papyrus.
Au Louvre, dans la réserve des antiquités égyptiennes,
Laurent Capron.
Il restait mystérieusement des caisses de papyrus qui n'avaient jamais été ouvertes, parce que le travail des égyptologues consiste essentiellement à étudier l'Égypte pharaonique. Et comme ces caisses de papyrus contenaient des papyrus grecs, donc de l'époque grecque d'Égypte, peu de gens s'y étaient intéressés. Donc il en restait quelques milliers non exploités, alors sous forme extrêmement fragmentaire, hein, ce sont souvent des minuscules bouts de papyrus avec très peu de choses dessus, mais on a trouvé dans une caisse des papyrus tout froissés, donc ça a été un travail d'abord sur l'objet papyrus de restauration, puis sur le texte où on a quand même choisi de confronter des lectures pour essayer de trouver la lecture la plus objective possible, parce qu'on a toujours des façons de voir les choses un peu différentes. Et c'est bien confronter à chaque fois les points de vue pour trouver le texte le plus proche de la réalité. Alors quand on a la chance de travailler avec quelqu'un avec qui on s'entend vraiment bien, comme j'ai la chance de travailler avec Annibellis, où on travaille de manière très très semblable, c'est celui qui aura l'argument paléographique le plus fort, ou l'argument sémantique selon le cas. Parfois l'un voyait... Bon, pour la musique, Annie étant vraiment experte dans le domaine, je me suis souvent rallié à son choix, bien que parfois les lettres étant tellement effacées, ça se jouait à des détails infimes qu'on ne voyait qu'à des microscopes agrandissant plus de 100 fois l'image. Donc là, c'était vraiment à celui qui aurait le meilleur argument, sachant que c'est pas toujours évident. Et pour la lecture du texte, on commence par ne pas s'occuper de ce que signifie le texte, parce que sinon on a tendance à surinterpréter la lecture, et ça c'est l'écueil qu'on a toujours en papyrologie, c'est que quand il y a un trou, on veut le remplir, et on le remplit en fonction de ce qu'on a déjà acquis comme connaissance, et on laisse pas souvent assez la place à la découverte en tant que telle. Donc il faut être le plus objectif possible, et parfois ben, l'un lit une lettre, l'autre une autre lettre, et puis alors on compare, on voit ce qu'on on écrit, ce qu'on enfin, on dessine ce qu'on a vu dans un coin chacun, et puis après on compare, et puis on essaie de trouver la lettre qui se rapproche le plus, puis après avec le sens on arrive à trouver. Mais c'était parfois l'objet de discussions vives, toujours drôles de toute façon, parce que on n'était pas du tout là pour se battre et pour avoir raison, mais pour essayer de trouver de toute façon quel était le texte du papyrus.
Hey, Alethos fes, pai das ug apecteinas, u de geoter, deixon us ug odessas.
L'idée m'est venue de travailler avec des luthiers et essayer de faire, à partir de ce que je sais, de ce que j'ai vu, des fragments, des descriptions, des images, enfin des représentations figurées, des instruments antiques, les réaliser, on réalisait des répliques. Aucun n'a survécu. Aucun. Et il faut trouver un luthier qui accepte d'oublier tout ce qu'il sait de la lutherie moderne. Et qu'il accepte aussi de travailler comme on sait que travaillaient les luthiers de l'Antiquité. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un luthier qui s'appelle Jean-Claude Condy. Et Jean-Claude s'est lancé avec moi là-dedans. Et on a travaillé d'abord sur les lyres. Et puis on en a fait une première, un prototype qui était pas mal à partir de vestiges que j'avais vus au British Museum ou bien en Grèce. Et puis après, on en a fait d'autres, toujours à peu près aux mêmes cotes d'ailleurs. Et ça, ça nous a pris quelques années, jusqu'à ce qu'on ait des lyres qui soient refaites. On en a fait trois ou quatre types différents pour expérimenter en réalité ce que disaient certaines sources. Alors, quelquefois, le luthier vous dit « Mais non, cette solution est impossible !» Et ben, moi je disais « Mais enfin, essayons, faisons le pari que ça marche !» Et puis, ça marche en général, ça marche. Les sources sont assez fiables.
N'hésite jamais. Nerveux ? Pétrifié. Ne jamais changer de main, ce sont tes ordres. C'est vrai. Quand tu sauras t'en servir, tu pourras oublier mes ordres.
Je voudrais que tu combattes pour les Grecs.
Pourquoi ? Les Grecs en ont assez de se faire la guerre ?
Pour l'instant.
Les Troyens ne m'ont rien fait.
Brice Lopez a installé son centre qui propose des animations autour du sport et de la gladiature à Beaucaire, près d'Avignon. Il nous a reçus au milieu de reproductions de vases, fresques ou sculptures qui représentent des athlètes de l'Antiquité.
Laisse Achille se battre pour l'honneur, laisse Agamemnon se battre pour le pouvoir et laisse les dieux décider quel homme recevra les lauriers.
L'objectif, c'est l'amélioration des connaissances archéologiques et historiques dans le domaine sportif. Ça, c'est l'objectif vraiment affiché de nos recherches. Après, le procédé, je pense qu'il est le même que celui de tous les gens qui travaillent en archéologie expérimentale, c'est-à-dire que on part des éléments sources archéologiques ou littéraires et ou littéraires. On prend aussi les études qui ont été faites par d'autres pour voir les orientations qui ont été choisies par des chercheurs, hein, Wolfgang Decker, Jean-Paul Thuillet, pour si on reprend les sports antiques. Et puis, on se met des points de référence, ce que j'appelle, moi, des constantes. C'est-à-dire que si on prend les éléments archéologiques de la boxe depuis le 3e millénaire jusqu'à la chute de l'Empire romain, il y a une constante certaine, c'est que il n'y a pas de gros gants de boxe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros gants volumineux comme on a aujourd'hui. On a des bandes de cuir lacées sur la main, qui évoluent, qui ont des formes un peu différentes. Ça, c'est une constante sur la boxe. Après, tous les historiens qui ont travaillé ou archéologues qui ont travaillé sur la boxe sont pas tout à fait d'accord sur le règlement, sur les zones de frappe, etc. Mais ça, pour moi, c'est pas important. La constante, c'est pas de gants ou des petits gants. Donc moi, je pars de ça, cet élément-là, et je l'applique à la boxe moderne. Et on voit ce que ça fait chez nous. C'est long parce qu'il faut qu'on incorpore ça, que nos habitudes naturellement de boxeurs se changent, ou qu'elle ne se change pas, qu'on voit ce que ça fait, cette constante, et on la note. Et une fois qu'on a stabilisé un petit peu cette constante, on revient aux éléments archéologiques. On se dit, voilà, on se filme, on se prend en photo, on se positionne, nous, par rapport à notre pratique moderne, et on se dit, voilà, qu'est-ce que ça a modifié en nous en tant que boxeur. On revient vers les éléments archéologiques, on voit ce qui peut concorder, ce qui peut pas concorder. Là, on établit des hypothèses quant au fonctionnement, on reprend les textes, on essaie d'évaluer le règlement, etc., petit à petit. Et comme ça, on évolue d'hypothèse en hypothèse. Alors, hypothèse, pratique, on retourne aux sources et on revient, etc. Et on a trouvé des choses incroyables sur la boxe, sur la lutte, sur le pancras, on a trouvé des choses incroyables.
Ne perds pas ton calme. Inspecte les lieux d'abord. D'où souffle le vent, regarde le ciel et les nuages, puis regarde la cime des arbres et leurs branches. Ce sont eux qui t'apprendront l'inclinaison qu'il faudra donner à l'arc pour atteindre ton but. La flèche de l'arc devra être parallèle au bras gauche, comme un trait. Tends-le fort encore et vise.
C'est très dur.
Tends-le davantage. Encore un peu plus fort. Vas-y. Parfait. Quel est ton nom?
Ulysse, fils de Laerte.
Tu es habile. Il faut savoir utiliser ses dons pour vaincre, pour te défendre lorsque tu seras roi.
Aucun athlète de Thessalie n'a pu me battre au lancer du disque. Acceptes-tu le défi, Hercule?
Je l'accepte.
Derrière nous, il y a une fresque avec deux boxeurs qui sont le bras tendu. Ils boxent l'un contre l'autre avec un seul gant. Et les archéologues se posent la question de comprendre pourquoi ils n'ont qu'un seul gant. Et moi, je leur dis, ils n'ont pas qu'un seul gant, c'est simplement que vous vous êtes trompé dans la restitution, dans le remontage de cette fresque qui a été trouvée de façon parcellaire. En fait, notre grande découverte, ça a été que, contrairement à la boxe moderne, où aujourd'hui, de la position de garde, les bras ne vont que vers l'avant pour revenir dans la position de garde, dans la boxe antique, à partir de la position de garde, les bras vont vers l'arrière pour aller vers l'avant, pour revenir. C'est-à-dire que, en fait, les mains se tournent tout autour de la tête pour aller se projeter sur l'adversaire. D'ailleurs, ça a été incroyable parce que on avait trouvé ça avec l'archéologie et la pratique. Et quand on est retourné aux sources, je me suis intéressé au texte. Et dans l'Énéide, Virgile dit, en parlant des pugilistes, leurs mains passent et repassent sans relâche autour de leurs tempes et de leurs oreilles. Texte qui n'avait jamais été compris par les historiens, et pour revenir à la fresque qui est derrière, donc du coup, ils n'ont pas les deux bras tendus, mais en fait les deux bras pliés. Ce qui fait que la jeune fille qui est à gauche, elle a les deux gants, un gant à la main en bas, et un gant à la main qu'elle a comme ça, et non pas tendu vers l'adversaire. Elle l'a plié vers sa tempe. Et son adversaire en face n'a pas de gants, il a un bras plié comme ça vers lui, et l'autre dans son dos. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est sûrement un esclave ou un jeune homme de sa cour, puisqu'elle c'est une, ça a l'air d'être une princesse, elle a des colliers, des boucles d'oreilles, elle a un pagne coloré. C'est sûrement la princesse du palais dans laquelle on a retrouvé cette fresque. Elle s'entraîne avec un esclave à elle, ou un sparring, on pourrait dire aujourd'hui, qui n'a pas le droit de la toucher. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de gants. C'est un sparring. Donc, on s'aperçoit bien que finalement, par l'expérimentation, par la mise en geste de cette archéologie, de cet texte, quand on commence à bien l'appréhender, à bien l'automatiser, on a des choses qui ressortent et on retourne vers les textes et on s'aperçoit que oui, on a juste. Alors on n'a pas que toujours juste, hein, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, il y a beaucoup d'hypothèses. Dès qu'on veut commencer à être trop intellectualisé, dès qu'on intellectualise trop et qu'on passe pas par la pratique, tout de suite on commet une erreur. C'est très très rapide de commettre une erreur en pensant un geste ou en pensant un règlement sans le vivre.
Est heureux de vous présenter le seul champion resté invaincu dans l'histoire. Amen. Le légendaire Tigris de
Et si nous buvions maintenant? Le vin est atroce, je te préviens.
Nous fabriquons spécialement ce vin pour les armées romaines. Vous êtes bien dur avec vos vainqueurs.
Un des grands écrivains du vin, c'est le célèbre médecin Galien à la fin du IIe siècle.
André Tchernia.
Eh bien, Galien n'était pas traduit et il y avait des pages de Galien qui étaient de vrais manuels de dégustation. Galien explique que le vin doit s'étudier selon 5 points de vue. La couleur, la saveur, la consistance, l'odeur et la force. Et pour les saveurs, il y en a 3 principales d'après Galien. C'est le doux, l'astringent, on comprend assez bien, en gros, c'est nos différences entre doux et sec. Et puis la 3e, c'est piquant.
Veux-tu boire à cela? De tout mon cœur.
J'ai rencontré André Tchernia qui avait fait un livre très très fondamental sur la viticulture à l'époque romaine. Et André Tchernia, qui était professeur à Aix-en-Provence, cherchait un vigneron qui puisse éventuellement tenter l'aventure d'une archéologie expérimentale, fort de ses connaissances, j'allais dire livresques et théoriques, et avec bien sûr l'appui d'un homme de métier qui pourrait également trouver une cohérence entre le début de ses expériences et une certaine pratique évidente du quotidien.
Et donc, Hervé Durand, vous avez commencé par la vinification?
Alors, on a d'abord monté un groupe de travail avec André Tchernia et 5 œnologues, de manière à retraduire les textes pour être certain qu'il n'y ait pas de barbarisme, pour être certain qu'on se comprenait bien sur la traduction des mots latins, bien sûr, pour pas faire un contresens dans la pratique, évidemment. Ce travail fait, on a sorti un protocole écrit avec André Tchernia. Par exemple, on a décortiqué un texte de Columel qui donne finalement la manière de vinifier, c'est-à-dire comment faire du vin, comment également aromatiser le vin en mettant par exemple de l'eau de mer ou en mettant du fenugrec, qui est une plante aromatique.
Pour vinifier le vin romain, il y a 3 ingrédients fondamentaux. Le sel, dont vous parliez tout à l'heure, 0,7 g par litre. Le plâtre, 0,7 g par litre, qui augmente l'acidité. Et puis le mou réduit, ça s'appelle en latin le defrutum, et on augmente ainsi le degré d'alcool, comme en mettant du sucre maintenant, ça s'appelle de la chaptalisation. Alors, dans le defrutum, déjà, il était recommandé de faire cuire pendant quelque temps des coins, et puis d'y mettre ce produit qui a été la clé de la recherche, qui est le fenugrec. On mettait 0,18 g par litre dans le mou pendant qu'il cuisait et qu'il se réduisait. Et puis après, une fois la fermentation commencée, c'est là qu'on met le sel et le plâtre, et on rajoutait encore un peu de fenugrec, toujours de l'ordre de 0,2 g par litre. Et c'est au fond le fenugrec qui a dominé la dégustation, parce que c'est une plante, même à très faible quantité, extrêmement aromatique, et elle a un goût qui est assez proche de celui des curries ou des cumins. Ça fait partie encore actuellement des curries qui, vous savez, sont une combinaison de plusieurs aromates.
J'ai ensuite voulu, et à la demande d'un autre archéologue qui s'appelle Jean-Pierre Brun, qui est un spécialiste notamment des fouilles des villas gallo-romaines sur le plan bien sûr agricole, et qui a une très belle vision de la manière dont les caves romaines étaient organisées par les fouilles qu'il a faites. Donc on a voulu à 3 aller plus loin, et nos premières expériences étaient faites dans des poteries de quelques litres avec des moyens un peu sommaires. On a décidé en 1994 de recréer carrément une cella vinaria, c'est-à-dire une cave romaine, dans toute sa taille, toutes ses dimensions, si vous voulez, de manière à pouvoir travailler comme travaillaient, encore une fois, les Romains il y a 2000 ans.
Alors là, ça a été une énorme opération, reconstruire un pressoir exactement comme le décrivait Caton au IIe siècle avant notre ère, quelque chose avec un tronc d'arbre de 7 mètres de long, des leviers, des cabestans, ou des treuils plus exactement, avec lesquels on appressait le raisin. Et alors là, il y avait des gens habillés en romain qui foulaient le raisin au pied, après on le pressait au pressoir. Jean-Pierre Brun calculait les durées nécessaires, ce qui permettait de comprendre combien de temps il fallait pour faire le vin sur un domaine antique d'une étendue connue, et tout ça a apporté énormément de choses. Mais on était dans une autre question que celle du goût.
Est-ce que vous voulez qu'on partage ensemble un moment de dégustation?
Oui, oui, avec voilà. Plaisir.
C'est son secret. Alors, écoutez, on va vous faire déguster trois vins romains, trois vins archéologiques. Véronique est en train de vous proposer de vous servir du turriculé. Alors, le turriculé, en bon latiniste que vous êtes, ça veut dire tourelle. C'est un texte de Columel, donc, qui est très précis. Et ce texte nous amène à mettre, pendant la fermentation du vin, du fenugrec. On l'a fait tremper trois jours dans du vin. On l'a fait sécher au soleil pour qu'elle se ressèche complètement. Et à ce moment-là, on la broie. Nous, on la broie dans un mixeur. Il devait la broyer au pilon, évidemment. Et lorsqu'elle a subi ce traitement, si j'ose dire, elle devient extrêmement aromatique.
On a travaillé ensemble et j'ai travaillé après, justement, pour comprendre ces problèmes de fenugrec et de goût de vin Xérès avec d'autres œnologues. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre que les molécules qu'on venait d'identifier, qui faisaient le goût spécifique du vin jaune du Jura, en particulier du Xérès, et qu'on appelle le sotolon, eh bien, ces molécules sont très rares dans les plantes, mais il y a une plante qui en contient beaucoup, c'est le fenugrec. Donc, on avait compris que le fenugrec, c'était au fond une façon de donner à des vins nouveaux le goût qu'ils prennent dans le Jura et à Xérès après un long vieillissement sous voile. Le vin de Columel, c'était au fond un vin vieux de l'Antiquité, artificiel. C'est un petit peu comme de mettre des copeaux actuellement dans le vin, mais c'est quand même moins...
C'est un vin difficile, hein. Tout le monde n'est pas passionné par ce vin. Mais c'est quand même très puissant, très aromatique. Il doit être à 11,5 ou 12 degrés, je pense, des degrés faibles. Non. Très aromatique.
Oui, avec une truite, un poulet.
Oui, alors je ne vous apprends rien en disant que les Romains ne buvaient pas en mangeant, mais buvaient entre les plats. Vous avez un crachoir, hein, si vous souhaitez. C'est ça. Non, il n'y a pas de honte.
Lentilles aux châtaignes. Prenez une casserole neuve et mettez-y les châtaignes soigneusement épluchées. Ajoutez de l'eau et un peu de carbonate de soude et faites cuire. Durant la cuisson, mettez dans un mortier du poivre, du cumin, de la graine de coriandre, de la menthe, de la rue, de la racine de lazare et du pouliot. Triturez, mouillez de vinaigre, de miel, de garum. Travaillez avec du vinaigre et versez sur les châtaignes cuites. Ajoutez de l'huile et faites bouillir. Quand cela aura bien bouilli, écrasez au pilon. Goûtez, et s'il manque quelque chose, ajoutez-le. Quand vous aurez versé dans le légumier, ajoutez de l'huile verte. Quenelle garnie. Prenez de la graisse fraîche de faisan, faites-la revenir et coupez-la en dés. Garnissez-en la quenelle avec du poivre, du garum et du carénum. Faites cuire dans de l'hydrogarum. Anne Nercessian et Nicole Blanc, toutes deux archéologues, ont entrepris de se mettre au fourneau, source en main, pour mettre toute leur rigueur scientifique au service de la cuisine romaine antique.
L'Antiquité n'a livré qu'un seul recueil de recettes, qui est le fameux Apicius, qui porte le nom ce dandy du 1er siècle. Et son recueil, c'est plusieurs siècles de cuisine en sédimentation. C'est-à-dire que les uns ont ajouté, les autres ont retranché. Donc, c'est une première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que la plupart des recettes sont des listes d'ingrédients. Donc, qu'est-ce qu'il faut en faire? La plupart de ces ingrédients sont des sauces. Il n'y a pratiquement jamais de proportion. Donc vous mettez de ceci, de cela, vous mettez du poivre, de la livèche, de la coriandre, du vin et de l'huile. Et reconstituer une intensité de saveur, reconstituer la saveur tout simplement, c'est des tâtonnements. Nous avons été aidés par certaines recettes qui avaient des poids et des mesures,
elles sont très peu nombreuses, et par le recours à l'ethnocuisine, parce que la cuisine romaine a laissé son empreinte et a pris son caractère du bassin méditerranéen, et on retrouve certains plats dans leur jus à l'époque actuelle dans la cuisine régionale. Nous avons essayé d'expérimenter et à ce moment-là, on s'est aperçu que ça englobait des domaines de recherche beaucoup plus vastes que ce... Bon, enfin, on s'en doutait, mais une fois au pied du mur, on s'est aperçu qu'il fallait en savoir bien davantage. Que l'expérimentation seule est un jeu, mais qu'une recherche effective devait prendre toutes les sources disponibles. Et c'était aussi bien l'archéologie que la littérature, que les encyclopédistes comme Pline, par exemple, les agronomes, évidemment, les images, l'iconographie, la botanique. En fait, toutes les sciences, pratiquement, se sont révélées être des sciences auxiliaires de la cuisine. Bon, il y a des recettes que nous n'avons pas réussi à trouver, pas du tout même, qui étaient de l'ordre du cauchemar. Bon, il y a des recettes qui nous ont... Vous savez, on allait avec prudence, c'est-à-dire en ajoutant un petit peu, un petit peu. Et c'est seulement quand on a mis beaucoup qu'on a trouvé quelque chose de enfin, une confrontation entre les éléments qui était satisfaisante. Et c'est en partant justement de la cuisine orientale où les épices sont très présentes, et bien là, on a mis beaucoup de gingembre et beaucoup de... c'était de la livèche. Et ça finit par prendre du relief.
De truie. Faites bouillir les tétines, attachez-les avec des attelets de roseau, saupoudrez-les de sel et mettez-les au four ou au grill. Faites griller légèrement, pilez du poivre, de la livèche, du garum, mouillez de vin pur et de vin paillé, lié à la fécule et versez sur les tétines.
Il y a des exemples absolument classiques. À la lecture de ce qui était disponible, disons, au XIXe siècle, ils avaient l'impression que la cuisine romaine de surcroît baignait dans une sauce de poisson pourri, ce qui est évidemment faux. Le XXe siècle nous a apporté le gnoc mam. Nous savons que c'était de cet ordre-là. Or, c'est un assaisonnement raffiné qui a fait fortune à l'époque romaine, et on s'est aperçu donc que un certain nombre de recettes avaient pour pivot justement cette saveur du garum.
Et quand vous entendez Laurent Capron, comme on l'a entendu aujourd'hui, donc cette partition ancienne interprétée, qu'est-ce que ça vous fait comme impression ?
Bien, pour moi qui ai eu la chance de voir le premier la partition, c'est extrêmement émouvant parce que on trouve toujours des textes, enfin essentiellement des textes documentaires ou même littéraires, mais on ne les entend pas. Donc ce sont quand on trouve des documents, on arrive à se remettre dans l'idée que ça, c'est un document qui a été écrit il y a 2000 ans par des gens qui avaient une vie quotidienne, donc qui ont vraiment existé. Et quand on trouve des contrats, on arrive à s'imaginer la vie que les gens menaient à l'époque. Mais pour la littérature ou pour la musique, c'est un peu difficile parce que ça ne correspond pas à des personnes, mais à un art. Et c'est vrai que c'est absolument extraordinaire de retrouver, enfin d'avoir la chance de redécouvrir des choses totalement disparues, mais que des gens il y a 2000 ans ont vu aussi en spectacle comme nous aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est très très émouvant. On est, enfin, on arrive à communiquer presque avec le papyrus. D'autant qu'il était présent, c'est quand même une chance de voir l'objet, de l'étudier et d'en découvrir toute la saveur.
50 000 Romains, les yeux rivés, chaque mouvement de ton épée, t'encourageant à mettre ce tueur à mort. Le silence avant que tu frappes, et le bruit lorsque tu l'as fait, il éclate, et il s'élève soudain, comme une tempête, comme si tu étais le dieu du tonnerre lui-même.
Tu étais gladiateur?
Oui, je l'étais.
Je ne cherche pas à donner exactement à des gens du 21e siècle l'enseignement des gens du 1er siècle, parce que c'est impossible.
Brice Lopez.
On est 20 siècles plus tard et c'est pas possible. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est donner la même gestuelle et un état d'esprit commun. Parce que ça, c'est, on peut le transmettre. Mais par exemple, quand nous on s'entraîne en tenue moderne. Quand on combat avec des baskets. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de lieux où on peut s'entraîner avec du sable. Je crois qu'il faut bien faire attention. Nous ne faisons pas de la reconstitution. Parce que la reconstitution historique a des limites. Et là, je rejoins les archéologues, je dis attention, je rejoins les historiens, attention. Quand on reconstitue, on est dans une limite. On est comme un artisan, c'est très beau, hein, attention, c'est très très beau, mais c'est limité. On est comme un artisan qui prend un objet antique et qui le reproduit exactement comme il est. Et il ne se soucie pas de savoir si le geste qu'il réalise et celui de l'Antiquité. Et puis, les gens vont un peu plus loin, ils se costument. Alors, bon, les légionnaires romains, c'est le plus classique. Ils reconstituent un casque, une tunique, un bouclier. Ils se costument et ils sont là, ils paradent. Et ils se battent pour savoir si la couleur de la tunique, elle est rouge, elle est bleue, elle est jaune, vous voyez? Excusez-moi, mais moi, je m'en fous. Hein. Parce que la tunique, elle soit rouge, bleue, verte ou fuchsia, le combat, c'est la même chose. Le geste, il est pareil. Ça change rien. Ce qui compte, c'est l'expérimentation. Hein, on prend l'exemple d'un casque de gladiateur. Vous avez l'original à Pompéi. Vous le reproduisez. Super, il est beau. Très bien. Je le mets sur la tête et je me promène avec. Je suis pas un gladiateur. Je le démonte, j'enlève un élément. Je vois ce que ça change si je combats avec cet élément en moins. Je le remonte, j'enlève la crête, hein, je recommence, etc. Là, je commence à expérimenter. Et là, je commence à comprendre pourquoi il est comme ça. À quoi sert la crête, à quoi sert la visière, puisque je le démonte. Je combats avec, je combats sans, hein, je fais de la recherche. Et là, j'apporte des données nouvelles, j'apporte de la connaissance. Et je peux expliquer pourquoi la petite bavette qui est là et que la plupart des gens pensent inutile et juste une décoration, si j'ai le bon geste, si j'ai le bon mouvement, quelle protection ça amène, je le montre. Et en plus, en démonstration, je le démontre au public.
Est-ce qu'on peut faire une petite lecture avant, peut-être, un petit peu direct, hein, par exemple, les combats de milliards, non, je sais pas.
Polomenen hemuria caiois algeteke.
Polas diptimus psychas aidi proiapse.
Eron autos de gloria teuke cunessi.
Ce qu'il y a de plus frappant dans votre travail, c'est l'aspect des paysans. C'est-à-dire que les spectateurs sont transportés dans une durée tout à fait nouvelle et différente. Le temps n'a plus la même valeur. Donc, non seulement on retrouve des sensations très anciennes, mais je pense que ce théâtre a été créé pour que ces émotions renaissent. Et donc, les Grecs nous ont préparé le travail, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on appelle la mimesis. Que on refait une chose et la chose advient.
Letos kai dios uios hogar basileu ikolotes.
Il s'agissait plutôt de réhabiter la tragédie grecque.
Evelyne Hertel.
Comme elle avait été une chose vivante dans l'Antiquité, donc de lui redonner cette vie qu'elle avait perdue sur les autres scènes. On sait très peu de choses, en fait, sur la réalité matérielle de la tragédie grecque, et de toute façon, étant donné qu'on ne retrouverait pas les conditions politiques, culturelles, intellectuelles dans lesquelles la représentation se déroulait, puisqu'elle se déroulait toujours dans le cadre de fêtes religieuses en l'honneur de Dionysos, qu'elle se déroulait toujours sous forme de concours, à partir du moment où on a perdu ces données-là, de toute façon, la reconstitution serait un objet mort. Donc, on ne peut qu'inventer.
Petite cacabina, cacabina coulante, ragoût au garum, ragoût en rôti, ragoût sauce au garum, rascasse au rave.
En fait, nous n'aurons jamais de certitude parce que les produits ont évolué, parce que on a d'autres critères gustatifs, par exemple notre sensibilité au sel, des questions de climat, des questions de culture culinaire, mais essayer de retrouver, de faire quelque chose d'approchant, c'est quand même extrêmement tentant.
Anne Nercession.
C'est de jeter un pont sur les siècles et de voir ce que cela donne. C'est réussir à dénouer une énigme, de percer un mystère.
Le goût est quelque chose qui, quand on s'en tient à la lecture, est tout de même privé de sa dimension principale, c'est-à-dire la sensation, le plaisir, la surprise, la diversité. Donc là, oui, tout à fait, j'ai tout de même, en buvant ce vin, et quand j'en bois encore, l'impression d'avoir un contact avec le Romain qui le buvait et qui avait considéré que c'était là la saveur à rechercher. On a un contact à ce moment-là, une présence d'un certain système de valeurs gustatives et qu'autrement on risquerait de perdre.
Alors oui, on retrouve bien sûr un quotidien disparu. Je pense surtout qu'on redécouvre un quotidien qui existe encore et on n'invente pas tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui viennent de loin.
Hervé Durand.
Quand je rentre dans ma cella vinaria le matin à 6h, je rentre dans cette cave, j'ai les odeurs de fermentation qui sont très très présentes. Je vois les dolias qui fermentent, c'est-à-dire le vin qui fermente dans les dolias. J'ai bien sûr le bruit dans les oreilles de cette fermentation. Je pense qu'il y a les mêmes sensations que lorsque je rentre dans ma cave actuelle et que j'ai également des odeurs et du bruit comme ça de fermentation qui me font, quant à moi, le repère absolu des vendanges chaque année.
Il n'y a pas finalement un grand capron dans la recherche, surtout de périodes comme ça où on manque de sources, ou même si on en a énormément, toujours une part un peu d'imaginaire ou d'interprétation dans la recherche.
Eh bien, c'est là que, à mon avis, qu'on reconnaîtra les grands chercheurs plus tard, c'est est-ce que leurs hypothèses, parce que ce sont toujours des hypothèses, se sont révélées les plus proches de la réalité ou bien au contraire complètement fantasques. Je crois qu'il y a quand même des grands chercheurs qui ont tellement assimilé la culture sur laquelle ils travaillent, les gens sur lesquels qu'ils ont étudié, à travers que ce soit les documents papyrologiques pour nous, ou épigraphiques, ou l'architecture, je crois qu'ils se sont tellement appropriés la culture qu'ils arrivent à percevoir comme autant jadis on pouvait percevoir certaines choses, et on peut constituer avec quasi-certitude, évidemment, on n'est jamais complètement certain, mais ça c'est quelque chose que l'on acquiert en devenant scientifique, on n'est jamais certain. Mais il faut bien faire des hypothèses qui nous permettent après d'avoir une idée d'ensemble des choses, et forcément, il y a toujours des parts douteuses. Beaucoup de gens cherchent absolument à savoir ce qui pouvait y avoir dans la tête de quelqu'un qui écrivait, par exemple, une lettre, mais à force de se mettre dans sa tête, ils se mettent en fait, ils mettent plutôt la personne de... qui écrivent le document dans leur tête et interprètent à leur façon. Donc on a parfois des choses un peu surprenantes.
Attention, je ne suis pas un malade de l'histoire qui porte un nom latin ou un nom romain ou un nom grec et qui vit sa passion au point d'avoir chez lui...
Brice Lopez.
Je suis pas un malade de l'histoire de l'archéologie. C'est mon métier. Je fais de l'archéologie expérimentale. Quand je restitue les gestes, je suis dedans, mais je vis au 21e siècle. J'ai bien les pieds sur terre et la tête au 21e siècle. Par contre, donc il y a quand même des moments où c'est émotionnellement très très fort. Deux ou trois exemples. Le plus fort pour moi, ça a été l'année dernière, quand j'ai tourné l'émission des champions d'Olympie, quand j'ai boxé et j'ai fait le pancrace sur le stade, en tenue, avec du public qui était en tenue. Et même s'il y avait les caméras, même les caméramans portaient des tuniques et tout pour qu'on soit le plus plongé possible dans l'ambiance.
l'émotion est là. Moi, j'ai un grand respect pour les objets qui respirent. Hein. J'ai pensé à Agathos d'Alexandrie qui est mort sur le stade d'Olympie en combat de pugilat. Et quand j'ai pris un coup, que je suis allé respirer le sable et que j'arrivais plus à respirer, évidemment que ça me vient en tête. J'avais l'épitaphe d'Agathos d'Alexandrie dans la tête. Je me suis dit, donc il y a des passages comme ça, des éclairs où vraiment on se sent, vraiment. On a des flashs, on se dit ouf, on est un peu plus près de la réalité, de l'histoire, un peu plus près de nos illustres prédécesseurs, parce qu'on se dit mince, là il y a des gladiateurs qui sont morts, là il y a Agathos d'Alexandrie qui est mort, il y a des lieux comme ça un peu magiques, dans des lieux archéologiques forts qui sont bien restitués et qui peuvent donner l'état d'esprit d'eux. Et alors là, oui, on se sent assez proche des choses de l'Antiquité.
Et pour vous, est-ce que c'est le rôle du chercheur, Laurent Capron, de donner vie comme ça à l'objet de sa recherche?
Ça devrait être le rôle de tout chercheur, de redonner vie, redonner sens aux choses qu'il interprète, aux objets qu'il découvre. Je ne sais pas si on redonne vie à un objet, parce que pour moi, le papyrus n'est pas mort. On l'a oublié un temps, mais... on le redécouvre et on le découvre sous l'angle du chercheur du 21e siècle. Donc c'est pas la vie qu'il a eue à l'époque. À l'époque, il y avait un public très différent qui en savait peut-être beaucoup d'autres choses. Et je pense que ce que nous, on ressent, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de nouveau. Évidemment, on essaie de retrouver derrière quelle était la poésie du 4e, du 5e siècle, de retrouver quelle était leur musique. Mais on n'aura jamais, de toute façon, les sensations qu'eux avaient en l'écoutant.
À Annie Bélis et ses chanteurs, Frédéric Albou, Emmanuel Leclerc, à Philippe Brunet et ses chanteurs, François Cam et Caroline Zedline, à Laurent Capron, Hervé Durand, Evelyne Hertel, Brice Lopez, Anne Mercession et André Tchernia. Extrait de Ben-Hur de William Wyler, 3 de Wolfgang Petersen, Gladiator de Ridley Scott et Les 12 travaux d'Hercule de Pietro Franceschi. Recette tirée de l'art culinaire d'Apicius. Archivina, Jeannette Pazirkowski. Équipe de réalisation, Franck Malabry, Bernard Laniel, Thomas Coudreuse, Perrine Kerbrand, Véronique Lamondou.